Chapitre 3. Mise en fuite, le corsaire! Quel triomphe! Elle l'avait raillé, humilié, injurié, menacé, et au lieu de se défendre, il s'était sauvé, lui, le terrible, devant qui tout le monde tremblait. Ce triomphe était trop beau. À sa place, une autre se fût peut-être grisée de sa victoire et figée dans sa fierté. Mais elle n'était pas plus femme à se laisser emporter par le succès qu'à se laisser accabler par la défaite. Dans l'un comme dans l'autre, elle gardait sa raison et le sens critique, pour elle aussi bien que les autres. Assurément, elle était satisfaite de la façon dont elle avait conduit son entretien avec le corsaire, comme elle était fière de l'avoir raillé, comme elle était triomphante de s'être vengée de quelques années d'humiliation. Mais cette satisfaction, cette fierté, ce triomphe n'allaient pas jusqu'à l'aveuglement. Dans cet entretien, au lieu de se dire superbement « comme je suis forte » et de s'entourer des rayons de sa gloire qui l'auraient ébloui, elle se disait, en femme adroite et avisée, « comme il est faible ». Et cette faiblesse, chez un homme tel que lui, était caractéristique, surtout dans les circonstances où elle s'était manifestée. En effet, ce n'était pas lorsqu'elle avait bravé le corsaire en lui disant qu'elle ne lui livrerait point Marichette que celui-ci avait courbé la tête. Tout au contraire, il l'avait relevé à ce moment avec les plus terribles menaces. Et alors, elle avait pu croire qu'une lutte allait s'engager entre eux, lutte implacable. « Je vous ruinerai, je vous réduirai à la mendicité, je vous chasserai du pays. » Ses vociférations ne s'étaient arrêtées que lorsqu'elle lui avait répondu qu'elle avait fait parler Marichette, qui lui avait tout dit. Quel était ce tout qui avait paru l'émouvoir si fortement? Était-il possible que le témoignage du carreau cassé et que celui des deux matelots qui avaient vu Marichette sortir épouvantée eussent suffi pour le troubler ainsi et lui faire abandonner la place? Il fallait qu'il eût vu, dans ce tout, plus qu'elle ne voyait elle-même, plus que Marichette n'avait dit, et, conséquemment, il fallait que celle-ci lui eût caché quelque chose. Il n'y avait donc qu'à l'interroger, à la faire parler, et, cette fois, à lui faire dire tout. À peine le corsaire était-il remonté dans son cabriolet qu'elle sortit de la salle à manger pour aller rejoindre Marichette. Mais, comme elle traversait la cour pour prendre l'escalier, son mari l'appela. Elle voulut continuer son chemin en lui faisant un signe pour qu'il remît ses questions à plus tard, mais il vint à elle et il fallut qu'elle s'arrêtât. « Eh bien, il est parti !»« Sans Marichette ? Crois-tu donc que j'allais la lui donner ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Je te raconterai cela plus tard. Où vas-tu ? Interrogez Marichette !» En quelques mots, elle lui expliqua ses craintes et ce qu'elle voulait. « Tu ne vas pas faire cela !» s'écria Sylvain. « Et pourquoi ? C'est une fille innocente, c'est une enfant. Il faut bien que nous sachions. C'est la faire mourir de honte. Et si elle est enceinte ? Nous ne le verrons que trop tôt. Mais nous pouvons l'envoyer aux assises. Tu ne comprends donc rien ?» Elle le laissa abasourdi et rapidement, elle grimpa l'escalier tandis qu'il se demandait s'il devait la suivre et l'empêcher de poser ses terribles questions à Marichette. Mais parviendrait-il à lui fermer la bouche? Et d'autre part, Marichette ne serait-elle pas plus confuse d'avoir à répondre devant lui que seule en tête-à-tête avec sa cousine? C'était là des raisons plus que suffisantes pour retenir sa faiblesse. Il retourna à son travail, se disant que sa femme avait bon cœur et qu'elle aimait Marichette. Quand Célanie entra dans la chambre de Marichette, elle ne trouva pas celle-ci endormie, car à l'allure du cheval et au roulement de la voiture, elle avait reconnu qui arrivait. C'était lui, il venait la chercher. Qu'allait-il se passer? La frayeur l'avait anéantie. Elle était certaine que sa cousine voudrait la défendre, mais le pourrait-elle? Le temps que dura l'entretien dans lequel se décidait sa vie fut éternel. Haletante, elle écoutait si on ne montait pas pour venir la chercher. Faudrait-il donc qu'elle retournât dans cette maison maudite, qu'elle retombât en sa puissance? Alors valait mieux la mort. Et c'était un soulagement à son angoisse de chercher comment elle mourait, de se dire que ce serait fini. Paulin la pleurerait, mais au moins il garderait d'elle un doux souvenir, celui des courtes journées où ils s'étaient aimés. Hélas, qu'elle aurait eu peu de temps pour être heureuse, mais si pleinement heureuse cependant qu'elle se demandait s'il ne serait pas injuste à elle de se plaindre. Elle n'avait respiré qu'en entendant le cabriolet partir. Mais alors, une violente curiosité l'avait angoissée. Était-elle vraiment sauvée ? Eh bien ! S'écria-t-elle en voyant entrer sa cousine et n'ayant pas la force de retenir son interrogation, elle qui ne questionnait jamais. Il est parti. Est-ce pour toujours ? Cela dépend de toi. Que faut-il que je fasse ? Que tu me répondes franchement en me disant tout. Comprends bien qu'il veut te reprendre et qu'il m'a fait les plus affreuses menaces pour que je te livre. J'ai pu résister parce qu'il était seul, mais s'il revient la loi à la main et les gendarmes derrière lui, comment te défendrons-nous ? Nous ne le pourrons que si tu nous donnes des armes. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Tu ne m'as pas tout dit ? Elle s'était approchée du lit, se faisant aussi douce, aussi insinuante, aussi bonne femme qu'elle pouvait. À cette interrogation directe, Marichette se cacha la tête dans son oreiller, et ce geste de désespoir et de confusion fut un aveu pour Sélanie. Mais ce n'était pas assez, il fallait qu'il fût précisé et circonstancié cet aveu. Est-ce avant ? Est-ce après le carreau ? Avant ! Murmura Marichette d'une voix si faible que Sélanie dut se pencher sur elle pour entendre sa réponse. Quoi ? Marichette ne répondit pas. Cependant, Sélanie ne céda pas à l'exaspération qui commençait à la pousser. Comprends donc, malheureuse enfant, que si tu ne nous dis pas tout, nous sommes désarmés et qu'il te reprend. Marichette ne sentait que trop cruellement qu'il fallait répondre. Mais comment dire ce qu'elle n'osait même pas se rappeler ? Parle, parle donc ! Insista Sélanie d'un ton plus dur. La nuit de la tempête, comme il rentrait, il a frappé à ma porte.
Tu as ouvert ta porte ?
J'ai cru qu'il avait besoin de moi, je n'ai pas réfléchi. Il a refermé la porte et a marché sur moi. Je me suis sauvée, j'ai appelé au secours.
On n'a pas entendu ?
Comment t'entendre dans la tempête ? Il a fini par me rejoindre, il m'a prise dans ses bras. Je me suis défendue.
Et comme elle se taisait, Sélanie, se penchant sur elle, l'embrassa.
« Et après ? » dit-elle. « Je ne sais pas. Comme je me débattais, il m'a mis la main sur la bouche, j'ai étouffé, je ne sais pas. »
Et défaillante, éperdue, elle s'enfonça sous ses draps.
« Mais c'est imbécile ce que tu me dis là !» s'écria Sélanie exaspérée. « C'est pourtant la vérité. Ce que vous me demandez, je me le demande moi-même, je me le suis demandé 20 fois, 100 fois depuis avant-hier. Je ne sais pas, j'étais paralysée par la peur, brisée par la lutte, anéantie, étouffée, évanouie peut-être, je ne sais pas. »
Sélanie fit quelques tours par la chambre pour ne pas la secouer et lui arracher de force ce qu'elle voulait savoir. Mais ce ne serait pas par la violence qu'on obtiendrait quelque chose de cette idiote qui la stupéfiait autant qu'elle l'exaspérait. Avait-on jamais vu stupidité pareille ? Revenant au lit, elle se pencha sur elle et de nouveau, elle l'embrassa à plusieurs reprises.
« ma pauvre petite, comme je te plains et comme je voudrais t'épargner ces questions. Mais il faut que nous sachions, c'est notre devoir. Tu dirais tout à ta mère. » « Je vous ai tout dit. Pense donc que tu peux l'envoyer au bagne. »« Le cousin de maman. » »«
Non le cousin de ta mère, mais le misérable qui t'a persécuté, qui t'a déshonoré. Tu te venges, tu le déshonores à ton tour, tu l'abats à tes pieds. »«
Mais c'est la honte pour moi. Mieux vaut la mort. » »«
Tu es donc lâche ? » ?»«
Laissez-moi mourir. »
Longtemps, Sélanie la pressa, la priant, la rudoyant, passant de la douceur à la colère, essayant de tout, usant de tout, elle n'en put rien obtenir. Ou bien Marichette se taisait, ou bien répétait son éternel refrain
« Je ne sais pas !»
Et ce qu'il y avait de démontant, c'est que Sélanie sentait que cette idiote était sincère. Il fallut bien qu'elle renonçât à pousser plus loin ses interrogations. « Si tu retournes à Saint-Maclou, dit-elle avec fureur en se dirigeant vers la porte, ne t'en prends qu'à toi. » Au bas de l'escalier, elle trouva son mari qui, poussé par l'impatience, était venu l'attendre. « Eh bien » demanda-t-il.
« Laisse-moi tranquille, toi. Quand ils ne sont pas canailles dans ta famille, ils sont imbéciles. »
Il ne répliqua pas, mais comme il comprit qu'elle allait sortir, il osa cependant lui demander où elle allait.
« Je vais consulter Soupardin. »